et le disciple qui écarte ses épines. Est-ce que sur ce chemin, il y a des épines pour le guide? Et est-ce que le disciple peut écarter des épines pour le guide?
Le disciple et l'épine. Mais pour le guide, l'épine a l'odeur de la rose.
Je dis tout à l'heure que ne peut pas y avoir de dos de chapelle. Comme ça.
Chapelle aussi.
Oui, d'accord. Ça me rassure parce que je croyais avoir un peu. Ça me paraît évident. Comment ça se fait dans ces conditions que tu acceptes qu'il y ait autour de toi un petit groupe d'initiés? Cette question, je crois réellement que son agressivité, elle est vraiment importante pour moi.
Elle ne peut se constituer qu'autour de ce qui nous est profondément autre. Ce qui se constitue autour de moi et pas une chapelle, c'est un sas. Serviteurs anonymes silencieux. C'est un sas. Mais c'est un sas bien étrange parce que ce n'est pas un sas vers l'ailleurs. C'est un sas vers l'ici.
Ça sépare quand même. Non ?
Quand tu mettras le pied dans le sas. Si pour toi, ça apparaît encore comme autre, alors de l'extérieur, ça t'apparaîtra une chapelle. De l'intérieur, ça n'a pas de mur. Parce que dans ce sas, tu es obligé à la conscience de l'un. Il n'y a pas... Rumi dit, vous avez tourné vos regards vers des chemins. Moi, j'ai tourné mon regard vers mon regard. Celui qui a tourné son regard vers son regard ne participe pas à la construction d'une chapelle. Mais d'un autre côté, personne n'est à l'abri dans ce chemin. De considérer cela comme une chapelle, ni même ceux qui sont pratiquants au sein de ce sas. On ne doit attendre d'eux qu'ils soient des êtres parfaits. Ils sont aussi des êtres en travail. Et probablement l'une des grandes difficultés d'un groupe de travail, c'est qu'en fait, quiconque s'en approche porte en lui la revendication d'un monde meilleur et espère trouver dans le lieu où vit un tel groupe des êtres parfaits. L'ashram en sanskrit, c'est le lieu de l'effort, c'est le lieu du travail. La chapelle, c'est le lieu où l'on s'endort devant une image qui s'occupe de vous. Une école, c'est un lieu où des êtres qui ont pris conscience de la nécessité d'un engagement réel se consacrent à un travail sur eux-mêmes. On ne doit pas attendre de ces êtres-là qu'ils soient meilleurs que d'autres. On ne peut espérer d'eux qu'au moins ils soient conscients. Donc, ce n'est pas une chapelle qui se constitue autour d'un enseignement vivant. C'est une école où chacun est directement concerné par la tâche qui lui a été remise. Et cette tâche, elle n'a pas été remise de choix délibérés. Lorsque le prophète Mohammed s'étonnait de ne pas enseigner à ses proches, le Seigneur lui a dicté dans le Coran: tu ne guides pas qui tu aimes, le Seigneur enseigne qui il veut. Une chapelle se constitue sur un choix. L'école est le fruit de son intention. Et pour mon ami York, dans cette école, je suis le portier.
Les tirs.
C'est une école qui n'a qu'une porte. Et des deux côtés, elle donne dehors. De toute façon, dès que l'on habite un point de vue particulier, on ne peut voir que des chapelles. Le point de vue lui-même crée la chapelle. Le préjugé qui nous fait habiter un point de vue crée la chapelle. Nana et Mr. God, Anna dit, nous on a des points de vue et Dieu il a la vue sur les points. Donc dès que nous on habite un point de vue, on ne peut voir que des chapelles, de toute façon. Et le propre d'un travail, c'est de se libérer du point de vue. En dénonçant le point de vue que l'on habite, on participe au démontage planétaire des chapelles. On retire sa brique à l'édifice. Repartez pas en emportant une pierre des courbes. On va se faire mal. Notre école, c'est la taverne de l'amour. C'est le lieu de la rencontre des cœurs, des assoiffés et perdus, du bien-aimé. Tu es pierre, et cette pierre, je l'enlève de l'édifice. Faut bien changer un petit peu. L'enseignement fait pour celui qui le reçoit du monde tout entier le lieu de son travail. Dans une école, l'enseignement qui est transmis fait de chaque instant le temps du travail, de chaque situation le lieu du travail. Où que porte la conscience de celui qui se consacre à ce travail, là est l'école. Le monde est pour lui le lieu de son travail. Guruji dit, je vais en rajouter une d'ailleurs sur ce qu'il dit. Guruji dit, pour le sadaka, pour l'élève, le monde est un lieu de travail. Pour l'éveillé, le bien-aimé, le lieu, le monde est un terrain de jeu. Où avez-vous le sentiment de vous trouver? Et moi, je pense qu'on devrait peut-être en rajouter une. Pour l'homme ordinaire, c'est un dortoir. Où avez-vous le sentiment de vous trouver? Et l'école, c'est le sas qui fait passer de l'état de sommeil à l'état d'éveil. Et ce sas, c'est le travail. Quand on rentre dans l'école, on n'est pas dépositaire d'une connaissance exceptionnelle. On n'occupe pas une situation privilégiée. On confirme un engagement et on, au travers de cet engagement, on assume la responsabilité de la tâche liée à l'enseignement. Et si, en plus de cela, au sein de ce travail, dans beaucoup de traditions, et ici aussi, on demande le secret, l'anonymat, c'est pour des raisons de travail. Ce n'est pas parce que on veut protéger jalousement quelque chose, mais pour des raisons essentielles à la nature même de ce travail. La première de toutes, en s'engageant dans ce travail, on quitte l'appartenance à la référence sociale et à ses codes de comportement. Celui qui s'engage dans un travail de cet ordre n'a pour toute référence que l'enseignement qu'il reçoit et l'obligation de conscience qui en découle de sa part. C'est cela désormais sa référence. Et d'une certaine façon, il n'a plus de compte à rendre à l'autre. Ses comptes, il les rend à l'un. Et occupant cette situation, il va vivre des événements, des prises de conscience, que celui qui vit encore en dépendant des codes de comportement liés à la morale, liés aux images idéales, que celui-là ne peut pas comprendre. Et l'élève ne doit jamais se trouver en position d'avoir à justifier quelque chose qui ne peut être compris que vécu hors de la dépendance aux images idéales et aux codes moraux qui en découlent. Ça, c'est la première raison. C'est pourquoi cet enseignement n'est jamais social. Il n'est jamais à but collectif ni à but individuel. Non, on ne le fait pas pour l'autre, on ne le fait pas pour soi non plus. C'est pour l'un. Et l'un n'a pas de compte à rendre à l'autre. Donc déjà d'emblée, celui qui s'engage dans un tel travail doit le vivre d'une façon anonyme, discrète pour ne pas dire secrète. Et la seule façon d'être anonyme, c'est d'être apparemment comme tout le monde, ce qui fait que des êtres qui sont engagés dans ce travail continuent de vivre dans la société, habillés de façon ordinaire, comme tout le monde, n'ont pas de signes distinctifs, Leur seul signe, c'est leur obligation de conscience intérieure, leur travail, leur qualité de conscience. Et s'ils sont secrets, c'est avant tout pour n'avoir pas à justifier des positions qu'on ne peut pas comprendre dans le contexte de l'intérêt personnel ou collectif du monde social. La deuxième raison, c'est que justement, comme on le développait ce matin en répondant à Julien, on a passé toute son enfance à fabriquer des comportements pour être conformes à une image au regard de l'autre. Et bien souvent, on s'est engagé dans la spiritualité pour offrir une image spirituelle de soi à l'autre. Et quelquefois, à l'autre déguisé aux couleurs de l'un. Dans ce travail-là, si le secret en fait partie intégrante, c'est afin justement de ne pas entretenir en soi ce mécanisme-là. On ne fait pas un travail spirituel pour grandir dans une image spirituelle au regard des autres. On grandit dans le regard de l'un. Et cela jusqu'à certains points dans certaines voies où, intentionnellement, pas volontairement, intentionnellement, les élèves adoptent des attitudes dites blâmables, de façon justement à aller encore plus loin dans l'humiliation de l'image de soi. C'est pour ça que la partie, on pourrait dire, ultime dans certaines voies de la pratique du secret, et qu'on appelle ici aussi l'humiliation intentionnelle, c'est la voie des malamati, des gens du blâme, ceux qui attirent sur eux intentionnellement l'opprobre. Donc, là encore, le secret a son sens pour ne pas entretenir une image spirituelle de soi et entretenir donc la dépendance du regard de l'autre. À côté de ça, il y a des aspects pratiques. Ça évite les réflexions du genre oh, c'est vraiment pas la peine d'être dans une démarche comme ça pour être aussi tarte. On évite ce genre de situation-là aussi. Et puis, la seule façon de se confondre avec la mouvance, c'est d'être passant soi-même, c'est de se fondre avec ce qui s'écoule. Et quiconque attache sur lui une qualité particulière qu'il peut montrer, c'est une façon qu'il a de ne pas s'écouler avec ce qui s'écoule. Je donne souvent aussi cet exemple de Anna dans Anna et Mr. God, où elle demande à son docker d'amis qui l'a recueilli pourquoi la plante elle est verte. Et le docker lui répond parce que la plante elle accepte les couleurs sauf le vert, elle renvoie le vert, et nous on la voit verte. Alors il y a Anna qui réfléchit, qui dit « Mais alors je sais pourquoi on ne voit pas Dieu, c'est parce qu'il accepte toutes les couleurs. » Eh bien, dans cette pratique, dans cette école, le secret, c'est une façon aussi de ne plus renvoyer aucune couleur.
Bon, il n'y a pas certaines choses qui transparaissent malgré soi. Je parlais de calme ce matin. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Quand on acquiert un certain calme, non qu'on le recherche nécessairement pour en faire une image, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Et qui, en général, attire des gens.
Et si... Et s'il y a un calme qui attire, et puis d'un seul coup, il y a une colère. Il faut à ce moment-là ne pas avoir été dupe du calme et pouvoir être attiré par cette colère-là aussi. Tu veux... La liberté ne peut être exclusive d'aucune manifestation. Elle ne peut exclure aucune manifestation. Ce n'est pas le calme qui attire chez un éveillé. C'est ce qui grandit en nous quand on est près de lui. Qu'il soit calme, qu'il soit apparemment agité, qu'il fume des cigarettes, qu'il boive du whisky ou qu'il dorme. Hein? Vous avez des grousses. On en connaît un. J'ai vu Monsieur Klein dans une lettre. Et quand j'étais près de mon maître, près de Guruji, quand il faisait la sieste l'après-midi, je restais assis en méditation près de lui. Parce que je me disais, s'il est ce que je sens, s'il est cet éveillé-là, alors même quand il dort, il est la contagion bénie. Pourquoi je profiterai de lui ? Vous venez pas dans ma chambre la nuit.
Ce qui est dit est dit.
Et en plus, c'est enregistré.
On efface. Donc, c'est pas le calme. Le calme est peut-être pour nous une image idéale qu'on rattache à l'éveil. C'est pas le calme. Sinon, on va avoir des stéréotypes. Et le drame d'avoir des stéréotypes sur la nature de la réalité et du gourou, ça crée dans l'esprit, ces stéréotypes, une image standard du gourou. Et du coup, ça crée une image standard du disciple. Il n'y a pas de profil du gourou. Sinon, on va arriver avec sa petite liste. Mais calme. Bon.
Souriant.
Propre sur lui.
Chaleureux.
La Rolls ou pas la Rolls? Et puis on n'en finit plus. Hein? Là est la liberté. S'il n'y a pas de gourou standard, il n'y a pas de disciple standard. S'il n'y a pas de profil du gourou, il n'y a pas de profil du disciple. Et tu es libre. Sinon, notre vie serait de nouveau... Voilà la différence. L'apprentissage par l'autre, c'est l'imitation. C'est l'imitation de l'autre. L'enseignement, c'est l'accord avec l'un. Alan Watts avait dit en plaisantant, finalement, l'éveil, c'est d'accepter d'être le raté qu'on est. Une des étapes dans la voie, c'est la perplexité. Le grand gourou chrétien, le perplexe. Où elle est, Valérie?
C'est pratique.
T'iras dire ça à frère Antoine, tu salueras mon perplexe. Oui. Alors vous pouvez partir librement. Vous êtes au lieu où vous posez votre pas, dans le lieu de l'école. La circonstance dans laquelle vous vous trouvez, c'est la seule circonstance de votre travail. Et où que vous soyez, là, cela est.